Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Athènes demande l'aide de Frontex pour surveiller les frontières de l'Europe. Ankara est en train de mettre ses menaces à exécution de ne plus retenir les candidats à l'exil. Un chantage migratoire de Recep Tayyip Erdogan pour obtenir une aide occidentale dans son combat contre Bachar el-Assad. Mesures drastiques contre le coronavirus et grande campagne de dépistage en Corée du Sud. Le pays le plus touché après la Chine compte désormais 18 morts et plus de 3700 personnes infectées. Deux motions de censure seront déposées contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Opposition et syndicats condamnent le recours au 49-3. Frontex, l'agence européenne de contrôle aux frontières, est en état d'alerte. Elle vient de recevoir une demande d'aide de la part de la Grèce. Ce matin, Athènes a annoncé que 10 000 migrants avaient été bloqués à la frontière ces dernières 24 heures. Ankara a décidé de laisser passer celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'Europe. Une mesure pour faire pression sur l'Union européenne afin d'obtenir son soutien dans le combat d'Erdogan contre Bachar el-Assad. 7 canaux transportant environ 300 migrants ont accosté sur l'île grecque de Lesbos ce matin, 150 autres sur l'île voisine de Samos. Anand Lauer, vous êtes à Istanbul et les chiffres d'Ankara sont très très loin des décomptes grecs.
À en croire les chiffres fournis par les autorités turques, en un peu plus de 24 heures, quelque 63 000 personnes auraient franchi la frontière grecque. Samedi matin, Ankara prétendait que 18 000 migrants étaient entrés en Europe. Dimanche midi, le bilan officiel se portait à 80 888, très précisément. À l'évidence, ces chiffres sont fantaisistes. Ni les autorités grecques, ni les ONG observateurs présents à la frontière ne rendent compte d'un tel afflux. Mais la Turquie a intérêt à gonfler ses bilans. D'abord, ces chiffres se propagent rapidement sur les réseaux sociaux et les groupes de discussion que consultent de nombreux migrants installés en Turquie. En donnant l'impression que les frontières sont grandes ouvertes, Ankara veut convaincre le plus grand nombre possible d'entre eux de prendre la route de l'exil pour créer de toutes pièces l'afflux migratoire espéré et ainsi exercer une pression maximale sur l'Union européenne pour la forcer à soutenir ses actions en Syrie. Résultat, aux abords de la frontière, ceux qui ont cru à ce message, ceux qui ont parfois parcouru des centaines de kilomètres et dépensé toutes leurs économies pour faire ce voyage, déchantent en constatant que la Grèce repousse en réalité les migrants. Mais les chiffres invraisemblables donnés par Ankara et martelés dans les médias ont un autre destinataire, l'opinion publique turque. Recep Tayyip Erdogan estime que la présence extrêmement impopulaire de millions de réfugiés lui a coûté les plus grandes villes aux élections locales de l'an dernier. Le départ supposé de dizaines de milliers d'entre eux et son intransigeance face à l'Europe pourraient contribuer, espère-t-il, à redorer son image.
Les explications d'Anne Andlauer à Istanbul. En Chine, le nombre d'infections au Covid-19 repart à la hausse avec 573 cas supplémentaires annoncés aujourd'hui. Un chiffre quasi identique à celui des nouvelles contaminations, cette fois en Corée du Sud. Ce pays, le plus touché par l'épidémie après la Chine, compte 18 morts et plus de 3700 cas de coronavirus. Alors, les autorités ont annoncé une mobilisation totale pour endiguer la propagation de la maladie à Séoul, la correspondance de Louis Paligiano.
Après avoir relevé l'alerte à son niveau maximum, le gouvernement livre désormais une réponse totale. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Moon Jae-in lors d'un discours télévisé pour commémorer le mouvement d'indépendance de la Corée contre le joug colonial japonais, évoquant une lutte nationale dans l'esprit de ce mouvement historique. Tests de dépistage massifs, mesures de quarantaine renforcées, opérations de désinfection dans les écoles, les églises ou encore les rames de métro. Le président sud-coréen fait état d'une mobilisation tous azimuts face à la flambée de nouveaux cas, soulignant même la nécessité d'une coopération intercoréenne en matière de réponse aux maladies infectieuses. Moon a également annoncé le déblocage d'un fonds d'urgence, notamment pour pallier la surpopulation dans les hôpitaux de Daegu. Le nombre de patients infectés dans la deuxième ville du pays compte pour 70% des cas. Actuellement, quelques 1300 personnes contaminées sont en auto-quarantaine à domicile avant de pouvoir être admises à l'hôpital. Une situation qui alimente les inquiétudes selon lesquelles le manque de lits pourrait entraîner davantage de décès. Deux patients sont morts du Covid-19 dans le pays en attendant d'être hospitalisés.
Et en Iran, 11 nouveaux décès dus au coronavirus ont été annoncés ce matin, ce qui porte le bilan à 54 morts. En France, le Louvre est resté fermé ce matin. Une réunion se tient actuellement au sujet du coronavirus entre la médecine du travail, la direction et les agents du plus grand musée au monde. Trois quarts des visiteurs sont étrangers. Ils proviennent essentiellement des États-Unis, de la Chine et des pays de l'Union européenne. Enfin, un couple habitant à Rennes a été diagnostiqué positif positif lui aussi au Covid-19. L'homme et la femme avaient séjourné dans l'Oise où se trouve l'un des clusters de l'épidémie en France. Premier blocage après la signature d'un accord historique entre les talibans et Washington hier à Doha au Qatar. Aujourd'hui, le président afghan a indiqué qu'il refusait de relâcher 5000 prisonniers talibans. Or, cette libération était l'une des clauses de l'accord d'hier. Mais Ashraf Ghani a expliqué que ce n'était pas aux États-Unis de décider. La diplomatie américaine s'était engagée à ce que des milliers de talibans soient libérés en échange d'autres prisonniers. Une large victoire qui rebat les cartes pour la primaire démocrate aux États-Unis. Joe Biden est arrivé en tête hier en Caroline du Sud. L'ancien vice-président de Barack Obama a été porté par le vote afro-américain. Il est donc confirmé dans une position de challenger face à Bernie Sanders et ce à deux jours du Super Tuesday. Cette fois, ce sont 14 États américains qui voteront en même temps. La riposte s'organise après l'annonce du recours au 49-3 hier par Édouard Philippe. Après 13 jours de travail parlementaire, 8 articles examinés, 2 motions de censure seront donc déposées. Motions qui n'ont a priori aucune chance d'être adoptées au vu d'une majorité de 299 députés La République En Marche. Ces motions seront débattues mardi. En attendant, pour Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT, en charge du dossier des retraites, ce recours au 49-3 n'est qu'un véritable gâchis.
C'est un échec, c'est une forme d'échec, mais je dirais une forme d'échec collectif de la classe politique qui montre quand même qu'elle a du mal à débattre sur le fond d'un sujet pourtant important. C'est-à-dire quelque part, c'est un peu l'écho de dernières années où la classe politique a eu du mal à s'emparer de ce dossier, à s'emparer de ce sujet, à porter la discussion sur les vrais sujets qui pourtant émergent dans l'opinion, comme la pénibilité du travail, le droit à la retraite progressive. Le débat quand même s'est installé, j'insiste quand même, s'est installé dans l'opinion autour des bons thèmes. Bon, il faudrait que ça puisse embrayer, que le débat politique puisse embrayer avec les attentes de l'opinion. En tout cas, nous, c'est ce qu'on porte, ce pour quoi on plaide à la CFDT.
Frédéric Sève répondait à Matteo Maestracci. Tram, train, bus, gratuit pour tous, ce pourrait être le slogan d'une campagne pour les municipales en France. C'est en fait un principe qu'a mis en place le Luxembourg. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Le Grand-Duché est le premier pays au monde à mettre en place ce système à une échelle nationale. Le but, détrôner la voiture. Jona Einstein a testé avec les usagers les transports gratuits.
À la gare du Luxembourg, Margot attend son train pour rentrer chez elle à Metz. Cette Française qui travaille ici va bénéficier de la gratuité des transports sur la partie luxembourgeoise de son trajet. De belles économies en perspective.
C'est-à-dire qu'on va passer de 150 entre Metz et Luxembourg à peu près une soixantaine d'euros par mois.
Pour fêter cet événement, des concerts sont organisés dans les trams pour le plus grand bonheur des passagers. Ce luxembourgeois salue la mesure, mais ne va pas pour autant changer ses habitudes.
En voiture, je mets 13 minutes et en transport public, 1h30. Donc voilà, le choix est vite fait, quoi.
Actuellement, moins d'un habitant sur deux utilise les transports en commun au Luxembourg. Avec cette mesure, le ministre de la Mobilité espère soulager les ménages les plus défavorisés et faire évoluer les comportements. François Bauch.
La gratuité, c'est en fait, comme je dis toujours, la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vraiment la stratégie précise jusqu'en 2025 pour vraiment changer fondamentalement de paradigme au Luxembourg dans la mobilité.
Mais les cheminots craignent un afflux de passagers sur le rail. Mylène Bianchi, syndicaliste.
Les 10 dernières années, on a eu une augmentation de quelques 70%. Chaque voyageur, si même demain on aurait encore 10% de plus, on aurait vraiment du mal parce qu'on a toute notre infrastructure ferroviaire qui est déjà saturée.
Verdict donc dans quelques mois.
Johanna Hochstein. Et à Paris, le débat sur la gratuité des transports pour les moins de 18 ans fait aussi partie des thèmes de campagne, mesure proposée par Anne Hidalgo, qui ne figure pas sur les programmes de ses deux principales concurrentes. En tête, Rachida Dati, qui pour la première fois en moins d'un mois se hisse à la première place des intentions de vote. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, la candidate LR gagne 3 points en une dizaine de jours, passant devant sa rivale socialiste. 23% des sondés se disent prêts à voter pour la maire républicaine du 7e arrondissement contre 20% pour Agnès Buzyn. Vous écoutez France Culture, il est presque 12h40. La face cachée du globe avec vous, Nabila Hamel, bonjour.
Bonjour Claire. Les réformes constitutionnelles voulues par Vladimir Poutine n'ont qu'un seul but, le maintenir, voire renforcer son pouvoir. Des milliers de Russes sont sortis hier à Moscou et à Saint-Pétersbourg pour le clamer. Les manifestations étaient également destinées à commémorer la mort de Boris Nemtsov, une des voix de l'opposition, assassinée par balle au pied du Kremlin en février 2015. Ankara a demandé hier aux États-Unis de lui fournir des missiles Patriot pour soutenir son intervention militaire dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis la perte de 55 de ses soldats dans des raids syriens à Idlib, la Turquie en veut à Moscou, alliée de Damas. Et c'est cette même Turquie, membre de l'OTAN, qui avait froissé l'an dernier Washington en achetant des systèmes antimissiles russes S-400. La ville de New York consomme 23 milliards de sacs en plastique par an. Ce type d'emballage ne devrait plus avoir cours à partir de ce dimanche dans la plupart des commerces. La ville de 8,5 millions d'habitants, connue pour être une des capitales du consumérisme, a eu du mal à franchir le pas. Des amendes jusqu'à 500 $ en cas de récidive sont prévues pour les magasins qui continueraient à donner des sacs en plastique, mais l'État de New York entend d'abord privilégier la pédagogie et inciter les habitants à avoir toujours avec eux un sac réutilisable. L'Agence de l'ONU pour la propriété intellectuelle, l'OMPI, doit dans les prochains jours élire son nouveau président. Et Jérémy Lange, vous êtes notre correspondant en Suisse, où siège cette commission. C'est un vote qui se prépare sur fond de rivalité tenace, voire de pression entre les États-Unis et la Chine.
Ce n'est pas souvent qu'une élection aux Nations Unies suscite autant la polémique. L'OMPI ne fait pas beaucoup de bruit dans le système onusien, mais c'est pourtant l'une des agences les plus riches, l'une des plus indépendantes également. La quasi-totalité de son budget provient des brevets qui sont déposés à travers le monde. Dans plus de 50% des cas, les demandes viennent de Chine. Huawei est même devenue la première entreprise pour le dépôt de brevets. C'est ce qui fait dire à la Chine que c'est l'intérêt de Pékin de protéger la propriété intellectuelle et que l'opposition américaine est une opposition politique, irrationnelle même. Sauf que si la Chine gagnait l'OMPI, Pékin emporterait une cinquième agence de l'ONU, plus que n'importe quel autre État membre, et alors que des doutes subsistent sur l'indépendance des protégés de Pékin vis-à-vis de leur gouvernement. D'après un observateur qui travaille avec l'OMPI, le risque de voir la Chine mettre la main sur certains brevets est possible, mais pas forcément crédible. Ce n'est pas l'avis de Washington, qui estime que le vol de propriété intellectuelle par des entreprises chinoises coûte chaque année entre 200 et 600 milliards de dollars à l'économie américaine.
Un après-midi par trimestre, l'Institut du monde arabe consacre ses forums à des membres des sociétés civiles arabes. Et en amont de la célébration de la journée de la femme, dimanche prochain, l'IMA invitera ce vendredi des citoyennes militantes, dont la mauritanienne Diouli Omar Diallo, très investie dans la lutte contre les agressions que subissent les femmes et fillettes de son pays. Cet ingénieur en télécommunication a créé une application de géolocalisation appelée Taxi Secure.
Chez nous, il y a beaucoup de gens qui font le taxi clandestin. Donc des fois, ce sont des délinquants qui agressent ou bien qui kidnappent. Ça arrive tout le temps. Taxi Secure, c'est quoi? C'est une application Android qui permet la géolocalisation des personnes vulnérables, notamment les mineurs. Si on sent que le taximan veut nous amener à une destination qui n'est pas la nôtre ou qui nous intimide ou qui nous harcèle, envoyer un message d'alerte à ses proches.
Techniquement, il faut déjà avoir l'Internet. Est-ce que toutes ces femmes qui prennent un taxi ont dans leur portable la 3G ou...
Non, ce n'est pas tout le monde qui a à sa disposition un smartphone. Et aussi, il y a une limite à l'application. Il faut avoir du crédit pour envoyer le message d'alerte. Il faut se connecter aussi.
Il y a beaucoup de cas d'agression de femmes en Mauritanie?
Oui, il y a une association qui a des structures de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre. De 2017 jusqu'en janvier 2020, ils ont pris en charge 1027 cas d'agression. 78% ce sont des mineurs. Le 10 du mois de février jusqu'à il y a 3 jours, on a répertorié 4 cas de viol. Une même, malheureusement, s'en est suivie de meurtre d'une petite fille de moins de 4 ans.
Si le système de géolocalisation peut donc techniquement ne pas être accessible à toutes, la militante mauritanienne Diouli Omar Diallo ne désarme pas et a lancé en parallèle un réseau de cours d'autodéfense gratuit en direction des femmes, et cela dans plusieurs quartiers de Nouakchott. Il faut sauver les chercheurs, sauver la recherche pour sauver l'histoire. Je termine par ces mots écrits par l'anthropologue l'anthropologue Fariba Adelkha depuis sa prison d'Evin à Téhéran. Son procès et celui de son compagnon, le chercheur Roland Marshall, arrêté lui aussi en juin dernier, s'ouvre mardi. Leur comité de soutien juge fabriqué de toutes pièces les charges retenues contre eux et demande leur libération immédiate. À dimanche prochain.
C'était Nabila Hamel. 15 départements en vigilance orange cet après-midi, de la Vendée à la Côte d'Or en passant par le Puy-de-Dôme. Attention aux orages de la Haute-Vienne à la Haute-Garonne. Temps pluvieux sur une large partie du pays. Échapperont à la grisaille le pourtour méditerranéen, l'Alsace et le Jura. Vous écoutez France Culture, midi 45. Bonne journée à tous.